Rosa Gandida. Le monastère est accessible à pied, tout en haut de la colline. Un sentier assez raide y monte depuis le village. Qui aurait pu s'attendre à trouver une roseraie en un tel endroit, bien au-dessus du niveau de la mer et au sommet d'un rocher? Je ne vois pas le jardin aussitôt, car il est enfermé sur trois côtés par les murs du monastère. Le seul côté ouvert donnant sur le village. En contrebas, il y a aussi des coteaux couverts de vignes qui assurent la production des moines. La plus célèbre roseraie du monde n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Dalles et sentiers sont ensevelis sous les mauvaises herbes. Les rosiers et les plates-bandes se sont emmêlés inextricablement. Il y a eu jadis une pièce d'eau au milieu du jardin, avec de la pelouse et des bancs. Bien que la négligence et l'abandon sautent aux yeux partout, je reconnais le jardin aussitôt, d'après les dessins. Oui, c'est vrai, le jardin était longtemps oublié et abandonné, explique frère Mathias. Nous avons mis l'accent sur la production du vin et sur la bibliothèque. Nous marchons dans le jardin, qui se révèle être encore plus grand que je ne l'avais imaginé et qui recèle des surprises. Même s'il faudra le reconstruire de fond en comble, je vois ce qu'il est possible de faire et comment je pourrais le sauver. La plupart des variétés de roses existent encore. Je ne puis m'empêcher de toucher les plantes, de palper les douces feuilles vertes. Je ne décèle la présence d'aucun puceron. Presque toutes les variétés existent encore, dit frère Mathias. Les apparences sont trompeuses, car les rosiers fleurissent à différentes époques de l'année. Il n'y a justement pas beaucoup de roses épanouies en ce moment, sans doute pas plus de 70. Rosa gallica, Rosa mundi, Rosa centifolia, Rosa ibida, Rosa multiflora, Rosa candida. Tandis que je le parcours avec lui, le merveilleux jardin des roses célestes, tel qu'il est nommé dans les vieux livres, prend corps peu à peu dans mon esprit.
L'écran est noir.
Oui, c'est pas grave.